Vous êtes avec SBS French.
Mesdames, Messieurs, votre journal des sports de ce samedi 15 juillet. On commence bien sûr avec du cyclisme et la 13e étape du Tour de France hier entre le Bourdoisan et Saint-Étienne. 193 km qui auraient dû voir les sprinteurs se disputer la victoire. Mais au final, c'est une échappée qu'il a emportée avec l'ancien champion du monde Mads Pedersen. On l'écoute.
It's incredible to finally take a win. I knew the shape was really good and yeah, I definitely missed out the opportunities in the first week. So yeah, the last 2 weeks here, yeah, it's not a lot of chances for a guy like me. So to take the chance today and get the award is really, it's really nice. Not only for me, but for the whole team. We came here with riders only for stages and now we have one. So it's such a relief.
Du côté australien, l'espoir était pour le sprinter Caleb Ewan, mais une chute à quelques kilomètres de l'arrivée a anéanti tout espoir de victoire. On écoute la déception du coureur de l'équipe Lotto Soudal.
I felt really good actually. And yeah, that's why we committed two guys to try to control that breakaway and they're doing a really good job. The break never got too far ahead. And then yeah, I don't know what happened in the corner. They just slammed on in the middle of the corner and then I had nowhere to go but into the back of the guy in front of me.
Le maillot jaune reste sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard devant le Slovène Tadej Pogacar, le Français Romain Bardet et lui au pied du podium. La 14e étape aura lieu ce soir, direction l'aérodrome de Mende. Une étape à suivre en direct sur SBS où nous retrouverons notre collègue Christophe Mallet qui suit la grande boucle. Hier, il est allé à la rencontre du double vainqueur du Tour de France Bernard Thévenet. Interview.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bernard Thévenet, c'est un plaisir de vous parler, c'est un plaisir de vous voir sur le Tour de France. C'est une course qui vous tient particulièrement à cœur, vous l'avez gagnée deux fois, notamment l'année de ma naissance, 75.
Oui, bah ça me tient particulièrement à cœur, c'est mon 50e cette année, tout compris. Donc ça veut dire que j'ai toujours la même passion. Je suis toujours intéressé par la course, toujours intéressé par les à côté du tour aussi. Hein. Cette foule, cette passion, cette bonne humeur aussi des gens au bord de la route, ces sourires tout au long de la route, c'est quelque chose que je ne louperai pour rien au monde.
Ah, c'est intéressant parce que à la fois le Tour de France s'est transformé complètement, c'est devenu une machine, ça a changé complètement, c'est une machine de guerre. Par contre, vous nous parlez du sourire des enfants, du regard des gens sur la route, ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé. Non, bah, évidemment, il a fallu que le Tour de France se structure parce que il y a plus de, comment dire, au point de vue sécurité notamment, bah, il y a plus de demandes, il faut faire plus attention, il y a beaucoup plus de presse. Donc ça fait beaucoup plus de personnes autour du tour, autour de la course qu'auparavant. Et le Tour de France a dû s'adapter, mais fort heureusement, je pense que la chance du Tour de France, c'est qu'il y a toujours eu des directeurs qui ont compris qu'il fallait anticiper. Et bon, bah, ça s'est bien passé jusque-là.
Ouais, Christian Prudhomme, il est juste incroyable en fait.
Oui, non, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bien, quelqu'un qui aime viscéralement et les coureurs et le Tour de France. Donc après, bah, c'est certainement plus facile pour lui. C'est toujours plus facile quand on est passionné de voir les problèmes en amont.
Si on parle juste de vélo un tout petit peu, aujourd'hui on parle d'une renaissance, d'un nouveau style de cyclisme. Pogacar, Van Aert, on parle beaucoup de l'époque Merckx. Vous l'avez connu, vous, Eddy Merckx. Est-ce que vous pouvez comparer vraiment, est-ce qu'on peut vraiment comparer, est-ce qu'on peut se permettre, nous, journalistes, de comparer cette époque avec votre époque?
Les époques ne sont pas comparables, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sont différentes. Par contre, on peut, en quelque sorte, le style, la façon de courir de Pogacar et ou même de Van Aert, mais surtout de Vingegaard, c'est un petit peu ce que je connaissais il y a 40 ou 50 ans. Ces dernières années, on voyait plus les équipes rouler en tête, les équipes écraser un peu la course, alors que là, depuis avant-hier et hier, on a vraiment eu des duels. Il y a eu vraiment des duels et des attaques par l'avant. Avant, on voyait plutôt ça roulait, c'était un rouleau compresseur qui éliminait par l'arrière. Maintenant, on retrouve des attaques par l'avant, évidemment. C'était quand même beaucoup plus enthousiasmant de voir cette course-là. Et ça fait un moment, je pense qu'on n'avait pas vu dans le Tour de France deux leaders se donner autant, hein, se donner autant de coups. Pourtant, apparemment, ils sont très amis, ils serrent la main à l'arrivée. Mais pendant la course, ils ne se font aucun cadeau. Et ça, c'est très, très beau à voir. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime. Je retrouve le cyclisme, de l'état d'esprit du cyclisme d'antan.
Allez, dernière question. La question à 1 million de dollars. Qui c'est qui va gagner ce tour-là? Et comment ça risque de se passer avec votre expérience?
Alors, c'est le meilleur qui va gagner, j'espère. Le meilleur est celui qui aura la meilleure équipe. Et malheureusement, pour Pogacar, pour l'instant, il est loin d'avoir une équipe qui est à la hauteur de celle des Jumbo. Hein. Donc, je pense que Vingegaard a un gros avantage. Mais non, est-ce qu'il est vraiment au même niveau que Pogacar? Ça, on ne sait pas. C'est fort heureusement, c'est l'incertitude. Et j'espère que cette incertitude va durer jusqu'au dernier contre-la-montre.
Absolument, c'est la beauté du tour. Merci, Bernard Tamnay.
Je vous en prie.
Deuxième jour des mondiaux d'athlétisme qui ont débuté hier et vont se poursuivre jusqu'au 24 juillet. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis accueillent la compétition. Elle se déroule dans l'Oregon, dans la petite ville de Eugene précisément. Reportage de Frédéric Suteau avec les relances de la rédaction de Radio France Internationale.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, hein, on a eu sur le sol américain plusieurs fois les Jeux Olympiques et l'Amérique regorge de grands noms qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme. Jesse Owens, Carl Lewis, Allyson Felix qui est encore là aujourd'hui. Mais jusque-là, effectivement, jamais les championnats du monde d'athlètes qui existent depuis 1983 ne s'étaient arrêtés aux States, comme on dit. Il était temps, Sébastien Coe, président de World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme.
Je ne dirais pas que c'est assez enthousiasmant d'être là, je dirais que c'est super enthousiasmant. Je suis vraiment content que ces mondiaux aient lieu aux États-Unis. Vous savez, une part importante de ma carrière d'athlète a eu lieu ici, sur le sol américain. L'athlétisme est un sport majeur pour les Américains, le sport numéro un dans les universités. Aux États-Unis, vous avez 50 millions de personnes qui courent, qui font du jogging. C'est tout ce processus que nous voulons accompagner, et ces championnats du monde sont aussi une étape vers les Jeux de 2028 qui auront lieu à Los Angeles. It is exciting, but we
are also here on a mission too. Los Angeles, il connaît bien Sébastien Coe, britannique, champion olympique du 1500 mètres en 84. Après Moscou en 80, il est à la tête de l'athlétisme mondial depuis 2015.
Alors on le disait, Frédéric, ces championnats du monde, ils se déroulent à Eugene. C'est un peu la Mecque de l'athlétisme.
Oui, Eugene, entouré de verdure, de montagnes, 175 000 habitants sur la côte ouest des États-Unis. Eugene, la patrie de Nike, la marque de chaussures, marque de sport mondialement connue. Un stade de 20 000 places, tout dédié à l'athlète. Écoutez ce qu'en dit Ninon Chapelle, la perchiste française en lice dès ce vendredi. Elle était déjà venue en 2014 pour les championnats du monde junior.
Avant, il y avait deux petites tribunes, dont une petite tribune en bois. C'est vrai que c'était un petit stade, mais c'était impressionnant parce que déjà chez les juniors, ce stade était blindé. Avec beaucoup d'engouement, les gens étaient de vrais supporters. Quoi. Vraiment, il n'y a pas une discipline où dès qu'il y a un mec qui lève les bras et qui demande la clap, bah, c'est parti. Quoi. C'est assez impressionnant pour nous parce que c'est vrai qu'en France, il faut vraiment que ce soit des gros événements pour avoir ce sentiment-là. Et je pense que ça sera le cas pour le coup pour les Jeux. Mais c'est vrai qu'ici, il y avait vraiment cette atmosphère particulière déjà chez les jeunes. Donc je pense que là, ils ont agrandi la tribune, c'est un stade tout neuf, l'ambiance va être folle. Ouais.
Ninon Chapelle avec Olivier Pron. Alors Frédéric, on aura l'occasion ces prochains jours de découvrir et de parler des stars de ces championnats du monde, les sprinteurs américains et jamaïcains notamment. Mais ce qui fait beaucoup parler à quelques heures du début de ces mondiaux, eh bien, c'est la question des visas.
Oui, athlète de haut niveau ou pas, pas facile d'obtenir ce visa américain pour rallier les États-Unis quand vous venez des pays africains notamment. Certains qualifiés ne seront donc pas là, faute de visa. D'autres espèrent arriver à temps, comme Ferdinand Omanyala, le sprinteur kényan, avec le 100 mètres qui démarre dès ce vendredi. Il n'a eu son visa à Nairobi au Kenya qu'hier, jeudi. Une situation regrettable, nous dit Noélie Yarigo, la coureuse de 800 mètres béninoise.
Bon, c'est vraiment dommage pour ce qui se passe en ce moment parce que beaucoup d'athlètes ne vont pas pouvoir venir parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'obtenir le visa. Moi, au moins, je l'ai eu assez rapidement parce que j'ai un passeport français et je suis contente d'être là. Donc voilà, je suis prête pour la compétition.
Le 800 mètres, vous êtes une vieille routarde du 800 mètres depuis le temps. Vous avez quoi comme objectif?
Passer le maximum de tours. C'est vrai, je suis comme le vin.
Vous bonifiez avec le temps?
Exactement. Physiquement, je suis bien, donc je croise les doigts pour que ça passe. Et je veux placer la barre haute.
En football, l'Euro féminin se poursuit et forte de leur succès contre la Belgique 2-1, les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Les Françaises sont assurées de terminer première du groupe D avant même leur dernier match de poule contre l'Islande. On écoute la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre. Elle s'exprimait à l'issue de la victoire contre les joueuses belges.
Vous savez, les matchs se suivent et ne se ressemblent, on dit souvent pas, mais là j'ai envie de dire jamais même. Donc... L'efficacité que l'on a eue contre l'Italie, on l'a eu un petit peu moins eu ce soir. Mais malgré tout, on a quand même mis un but de plus que notre adversaire, ce qui nous permet de remporter ce match et de se qualifier et également de finir première du groupe. On les avait très bien analysés. J'avais déjà dit hier en conférence de presse que cette équipe avait énormément de talent, notamment offensif. Et je crois qu'on l'a vu encore ce soir. Le coach Yves, que je connais très bien, a même changé un peu ses plans. Il m'a réservé quelques surprises, mais que l'on a tant bien que mal réussi à contrecarrer. Mais très sincèrement, il y a de très très bonnes choses dans cette équipe.
La Belgique jouera, elle, sa qualification contre l'Italie. Football toujours avec les quarts de finale de la CAN féminine au Maroc. Les Camerounaises chutent encore face aux Nigérianes, 1-0. Les Nigérianes qui valident donc leur billet pour les demi-finales, Antoine Grenier.
Défaite 1-0 des Lions Indomptables qui en 15 matchs n'ont gagné qu'une seule fois face aux Super Falcons. Une malédiction qui se poursuit donc cette année et envoie les Nigérianes en demi-finale où elles affronteront le Maroc, pays hôte de la compétition. Le Cameroun devra de son côté battre le Botswana dimanche en match de classement pour s'offrir le droit de participer à un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2023. L'autre demi-finale de la CAN, prévue lundi, opposera la Zambie à l'Afrique du Sud, tombeuse hier soir de la Tunisie 1-0 à Rabat.
On en vient aux suites des incidents du Stade de France en mai dernier. Le Sénat a rendu public son rapport. Il pointe du doigt les défaillances des autorités françaises et il accuse le ministre de l'Intérieur et la préfecture de police. On écoute Laurent Lafon, il est le président de la commission culture du Sénat.
Bon, d'abord par rapport aux supporters de Liverpool et aussi du Real de Madrid. Évidemment, nous l'avons fait à plusieurs reprises et nous le refaisons. Nous présentons nos excuses, nos regrets et nos excuses par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'était extrêmement important à nos yeux et à l'ensemble des membres des deux commissions qu'ils soient entendus et qu'ils s'expriment sur ce qu'ils ont vécu au-delà du fait qu'ils aient vraiment été victimes. On ne le dit peut-être pas assez, mais derrière ces événements, il y a aussi un enjeu diplomatique, singulièrement par rapport à l'Angleterre. Alors, ça n'est pas nos compétences, mais dans l'expression nécessaire du président de la République ou du Premier ministre, je crois qu'ils doivent aussi intégrer cette dimension-là. Il me semble que c'est important qu'il y ait cadeau, mais il nous semble qu'effectivement, pour toutes les raisons qu'évoquait le président Buffet, et compte tenu de l'importance des Jeux Olympiques, il est indispensable que les plus hautes autorités s'expriment pour redonner confiance dans notre capacité à organiser ces JO. Personnellement, nous n'en doutons pas.
Et voilà, c'était votre journal des sports de ce samedi 15 juillet.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.